chers auditeurs. Au micro, Paul Ouzi Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix, une émission sur Radio Shalom. En Israël, depuis 5 semaines, plusieurs dizaines de milliers de personnes défilent régulièrement dans les rues de Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, Beersheba et autres villes. Ces rassemblements ont lieu le week-end, mais pas seulement. Hier, 80 000 personnes se sont retrouvées dans la capitale d'Israël alors que la commission des lois de la Knesset se réunissait. Certaines de ces manifestations contre le gouvernement Netanyahou ont réuni près de 200 000 manifestants, ce qui est extrêmement important pour un pays qui compte 9 millions d'habitants. Qu'exigent ces contestataires avec autant de conviction? Qui sont-ils? Le mouvement est-il destiné à durer et quelles en seront les conséquences politiques à plus long terme? Nous allons demander à Marco Sarabia de nous expliquer la situation et de nous éclairer sur la nature de cette mobilisation. Marco Sarabia est membre de l'Assemblée du Parti travailliste israélien et un des animateurs de la contestation actuelle. Il vit et travaille au kibboutz Souba. Shalom Marco Sarabia, vous m'entendez?
Bonjour, shalom, bonjour à tous les
voilà.
Auditeurs et les auditrices.
Voilà, alors, cher Marco, vous suivez de très près les manifestations qui ont lieu actuellement dans plusieurs villes d'Israël. Qu'est-ce qui pousse les citoyens israéliens à participer massivement à cette démonstration de force? Contre quoi s'expriment-ils exactement?
Alors, et le gouvernement de M. Netanyahou est le premier de ses projets et il a décidé de faire une réforme juridique en Israël et de, à long terme, affaiblir les pouvoirs des tribunaux et surtout de la Cour suprême. Alors, et la Cour suprême, en fait, c'est un des contre-pouvoirs de la démocratie israélienne, et c'est peut-être le dernier des contre-pouvoirs parce que tous les garde-fous ont été affaiblis pendant toutes ces années, et tous les conseillers juridiques des gouvernements ont été un petit peu mis à l'écart souvent. Et donc, la Cour suprême est vraiment le dernier rempart contre les excès du gouvernement. Comme dans toute démocratie est basée sur l'équilibre des pouvoirs, comme on le sait. Mmh. Et la Knesset, souvent, a été à la solde du gouvernement et n'a pas rempli son rôle de contrôle du travail du gouvernement. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la Cour suprême. La Cour suprême, en fait, et elle a le pouvoir de rejeter certaines lois si elles sont jugées contredire des lois fondamentales comme la dignité et la liberté de l'individu et comme le respect des droits de l'homme.
Les lois fondamentales d'Israël.
Voilà. Alors,
qui servent de constitution. Voilà.
Voilà, qui servent d'une trame de base pour une constitution. Et il y a beaucoup de problèmes à ce sujet parce que certaines lois fondamentales ont été votées à une simple majorité, alors qu'il faudrait peut-être pour ces lois fondamentales et un plus grand consensus. Mais ce qui se passe, c'est que le gouvernement s'est attelé à cette réforme, qui pour nous n'est même pas une réforme, c'est carrément une destruction de la démocratie israélienne. Et cette réforme-là a pour but de pouvoir donner libre cours à tous les excès. Par exemple, la Cour suprême a récemment rejeté la nomination de M. Arié Dery, qui est un ancien repris de justice pour corruption et abus de confiance, et elle a trouvé que c'était pas normal qu'il était proposé nommé comme ministre. Et donc, c'est ce genre de choses qui pourra se faire si la réforme passe. Et libre cours à la corruption, libre cours aux excès. Par exemple, il y a tout d'un coup une proposition de loi comme quoi celui qui arriverait un petit peu trop déshabillé au Kotel à Maharavi, il serait emprisonné. Ensuite, il y a d'autres propositions de loi qui voudraient laisser libre cours à toutes les implantations tentations, même les plus sauvages. Il y a, et en fait, tous les démons sont sortis de leur boîte de Pandore, et le gouvernement voudrait encore la main libre, en fait. Et alors qu'il a une confortable majorité, ils auraient pu très bien gouverner tranquillement et personne ne serait sorti. Cet énorme mouvement de manifestation qui a réuni hier quelques centaines de milliers de personnes en plein milieu de semaine, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont fait la grève, qui ont pris un jour de congé et qui sont montés à la Knesset pour pouvoir exprimer...
À Jérusalem.
À Jérusalem, pour exprimer leur inquiétude sur l'avenir d'Israël. Cette inquiétude est vraiment justifiée, à mon avis, parce que la démocratie, on se vante depuis toujours d'être la seule démocratie au Proche-Orient, et en fait, on est en train de la détruire sous nos pieds. C'est uniquement pour pouvoir faire des lois excessives, extrémistes, et peut-être que d'un jour, avec cette réforme, un dictateur viendra et il pourra faire tout ce qu'il voudra parce qu'il n'aura pas de garde-fous.
D'accord. Alors, Marcos Arabia, qui sont les gens qui manifestent ? Est-ce qu'ils viennent de toutes les catégories sociales et de toutes les régions des pays ? Il y a des gens qui disent qu'en fait, c'est l'élite d'Israël qui est contre Netanyahou.
Non, c'est déjà plus lié à Netanyahou, encore qu'on sait très bien que cette réforme est très très suspect d'arriver maintenant qu'il est en prise à un procès pour corruption, abus de confiance et fraude. Alors il a intérêt à mettre une épée de Damoclès sur les juges qui le jugent. Il y a un conflit d'intérêt très très net et la conseillère juridique du gouvernement lui a clairement signifié qu'il lui est absolument interdit de s'occuper de cette réforme.
D'accord.
Alors, Le Netanyahou, il n'a pas, ce n'est pas seulement ça, c'est surtout cette ivresse de pouvoir qu'a la droite et surtout l'extrême droite et les orthodoxes qui ont compris que s'ils font passer cette réforme, ils pourront faire tous les changements et même les changements les plus racistes ou les plus sectaires et plus intolérants. Oui.
D'accord. Et alors, Marcos Arabia, est-ce que ces manifestations sont vraiment inédites par leur ampleur et par la raison qui motive la mobilisation ? Est-ce que c'est vraiment la réforme de la justice qui mobilise les gens ou est-ce que c'est vraiment contre Netanyahou et son gouvernement en général ?
Non, alors justement, il y a aussi des religieux parmi nous, il y a aussi des gens de droite, c'est simplement des démocrates. Et on a bien vu, par exemple, un ancien ministre de la Justice du Likoud, Dan Meridor, qui s'est élevé contre cette réforme. Benny Begin, le fils de Menachem Begin...
Il a manifesté, j'ai vu.
Le fils de Menachem Begin fustige cette réforme qui est antidémocratique et qui est contraire à l'esprit du Likoud, d'après Benny Begin. Et je pense que c'est tous les démocrates qui sont soucieux de la démocratie. Et ce n'est pas personnel contre Netanyahou, bien que, comme je le dis, il a intérêt à le faire.
D'accord. Alors... Maintenant, ce que les gens, ce que une partie des Israéliens disent, ou une partie des Juifs disent, et on entend ça à la radio, à la télé, partout, mais ils disent, mais écoutez, ça va pas, là, le gouvernement, il a été élu, les élections sont légitimes, elles ont eu lieu dans des très bonnes conditions, il n'y a pas de problème, Netanyahou, il est Premier ministre, il n'a pas volé son poste, c'est normal que le pouvoir exécutif fasse des lois. Et les gens qui manifestent, ce sont des gens qui sont contre la démocratie parce que les élections ont eu lieu. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Alors d'abord, je l'ai rappelé, la démocratie, c'est avant tout l'équilibre des pouvoirs. Ce n'est pas seulement la dictature de la majorité élue. Parce que c'est ça qu'ils veulent faire, en fait. Et un gouvernement élu n'a pas le droit de faire tout ce qu'il veut. Il doit rester dans le cadre de la loi. Et la loi, c'est avant tout de respecter les principes fondamentaux d'égalité et d'équité entre les citoyens et de protéger les minorités. Si Et il y a tant à faire dans ce pays. Ils auraient pu commencer par s'occuper du logement public pour les pauvres. Il y a tellement de pauvres en Israël. Ils auraient pu s'occuper de la gratuité de l'enseignement qu'ils avaient promis pendant leur campagne. Et ils auraient pu s'occuper des prix qui grimpent, qui s'escaladent à des niveaux extraordinaires. C'était ça les priorités. De s'occuper d'affaiblir la Cour suprême et les tribunaux, c'est très louche. Ça n'a rien à voir avec la majorité élue. Ça veut dire tout simplement qu'ils veulent les mains libres. Ils les ont déjà. Comme vous l'avez dit, ils ont comme la majorité. Alors, ils peuvent gouverner. Qu'est-ce qui les empêche de gouverner? Depuis 75 ans, Israël se tient comme ça. Il y a peut-être des petites réformes à faire, mais museler complètement la Cour suprême et faire nommer les juges uniquement par des politiciens de la majorité, parce que c'est même plus les politiciens à équilibrer entre la majorité et l'opposition. Ce qu'ils veulent, c'est une commission de nomination des juges complètement à leur solde. Alors, ça veut dire quand même qu'on veut faire passer des lois très suspectes. C'est-à-dire que si on veut écraser les tribunaux, ça veut dire qu'on veut la dictature. C'est très clair, c'est très simple. Et les tribunaux, c'est le dernier rempart du simple citoyen. S'il n'y a personne qui va le protéger contre les abus de pouvoir, contre toutes les minorités en Israël, il y a énormément de minorités. Qui va les protéger contre les mesures injustes et répressives? Qui est-ce qui va les défendre? Il n'y aura plus de pouvoir. Alors donc, je pense que c'est très dangereux pour Israël, et ça n'est pas, encore une fois, personnel contre Netanyahou. Il n'est pas le centre du monde. Il n'est pas Moshe Rabbeinu. Avec tout le respect que je lui dois, il n'est pas le nombril du pays. Alors, il faut s'apercevoir qu'autour de lui, il y a des extrémistes qui se sont tous alliés pour pouvoir faire passer des lois iniques. C'est ça le but de la protestation.
D'accord. Alors, Alors, je voulais savoir, il y a des gens d'extrême droite, hein, il y a les Ben Gvir, les Smotrich, qui représentent notamment les gens des territoires, enfin, des Shtachim, de Judée et Samarie, oui. Cisjordanie, enfin, ça dépend comment on appelle ça. Est-ce que pour eux, le fait de museler, de faire taire les tribunaux et la Cour suprême, c'est pas un moyen d'annexer aussi les territoires, mais sans les annexer, quoi?
C'est vrai, c'est justement, ils veulent faire passer des lois à la limite de la légalité et à la limite de la moralité aussi, du respect des droits de l'homme. Et chacun a son intérêt. Les orthodoxes, ils veulent faire passer leur chef Aryeh Deri et bafouer le principe de l'égalité en obtenant beaucoup plus de crédit pour les orthodoxes et moins pour les laïcs. Les gens de l'extrême droite, sionistes religieux, veulent annexer, comme vous le dites, de manière rampante et au dépit du droit international, au dépit des droits de l'homme, tout ce qu'ils veulent, vraiment. Alors, il y a une communauté d'intérêts. Et puis, il y a M. Netanyahou qui a son procès sur les bras au bout duquel il risque la prison. Donc, tout ça, ça va ensemble, en fait. C'est le même consensus d'embryon de fascisme qui est en train de se monter ici.
Alors, Marcus Arabia, il y a un truc qui est étonnant, c'est de voir l'économie défiler et se révolter contre la loi, contre le projet de loi, de voir beaucoup de militaires, hein, qui marchent, ils partent de Tel Aviv, ils montent à Jérusalem.
Non, pas des militaires en fonction.
Des réservistes. Voilà. Et puis on a l'impression qu'au niveau de Tsahal, au niveau de la direction de Tsahal, il y a une certaine inquiétude. Tsahal, la police, Mishmar HaGvul, tout ça. Enfin bref, d'un seul coup, on a l'impression que tout le consensus est en train de tomber en morceaux.
C'est vrai, c'est vrai. Et ils atteignent, ils sont en train de toucher au sein du sein le consensus de l'armée. Et encore, c'est déjà plus le sein du sein. Pourquoi ? Parce que en fait, il s'avère que 50% d'une classe d'âge s'engage à l'armée seulement. Il y en a de plus en plus qui ne font pas l'armée, et surtout parmi ceux qui soutiennent la coalition, les orthodoxes et même les sionistes religieux. Il y en a beaucoup qui sont anarchistes et qui ne sont pas engagés à l'armée parce qu'ils sont trop dangereux. Et donc c'est déjà moins un consensus, il s'avère. Mais en fait, on a mis aussi, par exemple, un incapable qui ne comprend rien à la sécurité nationale, comme Itamar Ben-Gvir, qui n'a pas fait l'armée lui-même. On l'a mis à la tête de la police nationale.
Et donc, c'est un hors-la-loi, lui.
Voilà, et lui, il fait tout pour allumer le feu, pour créer le chaos, et il n'a aucune idée de ce que c'est que la sécurité nationale. Donc il fait des choses très dangereuses, et les professionnels de l'armée et de la police commencent à lever la voix en disant: ce que vous faites, c'est dangereux. Il faut retourner à apaiser les territoires, apaiser la situation. Maintenant, on a vu des choses très inquiétantes. Par exemple, des enfants mineurs qui ont commis des attentats ces derniers jours. Et c'est très très inquiétant. Ça veut dire que la jeunesse palestinienne n'a plus d'espoir, est complètement désespérée. Et c'est un tonneau de poudre qui va se mettre en branle si on n'apaise pas la situation. Il faut retourner à une politique de conciliation, donner aussi aux Palestiniens, parce que ce sont des êtres humains. Il y en a beaucoup qui ont oublié que les Palestiniens sont des êtres humains qui ont des aspirations, qui veulent aussi la tranquillité, qui veulent vivre, faire nourrir leur famille. Il y a des enfants palestiniens qui n'ont jamais vu la mer, en fait, même si elle est à 20 kilomètres, tout simplement parce que ils sont enfermés dans une sorte de ghetto. Alors, certains ont le permis de travail, mais il faut justement apaiser, il faut leur donner une perspective, leur donner l'espoir.
D'accord.
Qu'ils vivent. Moi, je suis pour essayer enfin de s'occuper de l'occupation, de s'occuper du sujet de l'occupation.
D'accord.
On a tout le temps quelque chose de plus urgent pour ne pas s'en occuper.
D'accord. Alors, une dernière question, mais très très rapide, il nous reste une minute.
Oui.
Comment tout cela peut se terminer ? Est-ce que vous pensez que ce grand mouvement de mobilisation peut empêcher la Knesset d'adopter le projet de réforme de loi sur la justice ?
Oui, ça fait pression. Et on voit par exemple que le président de l'État, M. Yitzhak Herzog, a proposé un plan de compromis. Et il y a tous les chefs de l'opposition qui ont proposé au gouvernement d'arrêter ce processus et de s'asseoir pour arriver à un consensus afin de pouvoir arriver à quelque chose d'acceptable pour tout le monde. Et donc, oui, je pense que la pression de la rue est en train de faire son effet.
Alors, ça va continuer. Ça va continuer, alors, tant qu'il y aura...
Oui, la protestation va continuer jusqu'à ce que le gouvernement enlève cette réforme et se remette à ses devoirs pour présenter une réforme plus acceptable et plus dans le dialogue et plus en rapport avec l'esprit des fondateurs de l'État et la déclaration d'indépendance.
Ok, merci beaucoup Marco Sarabia. Je vous dis à bientôt, on aura encore l'occasion de discuter comme ça.
À bientôt,
à bientôt.
Bonjour à la France, bonjour à tous les Français et les Françaises que j'ai quittés il y a bien longtemps.
Allez, shalom, shalom Marco.
Shalom, shalom.
Alors, c'était Paul Ouzimé, Arsenal Antenne, avec Chronique pour la paix. Bonne semaine à tous et à dans 15 jours.